LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
On ne pense pas finalement.
Je me fasse mal.
On vit l'instant.
C'est comme ça.
Hein. Mais sans penser à autre chose, je trouve.
Non, c'est
pas vous.
Fini, ouais. Hein?
Ah là là.
Non, il y a un hiver.
Bon, bah alors, vous pouvez parler.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Un petit aller-retour vite fait.
Si tu vas pas mettre ta main devant le micro.
Vas-y.
Oui, on vient pour se muscler, ça marche pas toujours.
Est-ce qu'on peut se rapprocher du bord juste pour mettre un peu d'eau sur les joues ?
Oui.
Pour éviter de cuire dans les combinaisons et d'avoir un choc thermique à l'entrée dans l'eau.
Bon, allez, on y va ? Comme ça. J'avoue.
On les appelle les pingouins parce que c'est toute l'année, tout le temps, quel que soit le temps, qu'il fasse chaud, froid. En fait, il ne fait jamais froid ici. Il faut dire que c'est quand même un climat quasiment pas, je ne veux pas dire tropical, mais on a un climat très 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 intéressant parce qu'il gèle jamais, il fait toujours très beau. On peut faire du longe-côte au mois de décembre.
La série documentaire Ciel, ma retraite. Troisième épisode, Bienvenue à la retraite. Une plongée dans les archives sonores de l'INA. Franck Lélin, Nejma Bouakra.
La retraite, c'est un mot qui m'amuse, parce que retraite, en français, c'est un peu se retirer du monde. C'est vraiment la position de retrait. Ça peut être aussi la retraite militaire catastrophique, napoléonienne, etc.
Gillian Lefebvre.
Alors qu'en espagnol, ça m'a toujours beaucoup amusé, ça s'appelle la jubilación, c'est-à-dire exactement l'inverse. Enfin, je jubile, je suis heureuse, je profite. Donc ça, je trouve le contraste entre les deux langues assez saisissant. Je préfère l'expression espagnole, mais enfin, voilà. Et en anglais, c'est retirement, en fait, c'est se reposer. Donc c'est assez intéressant de voir en fonction des cultures, le terme est différent.
Qu'est-ce que tu choisis ?
Moi, j'aime bien la jubilación parce que c'est un côté un petit peu fête. Enfin, tu vois, c'est le côté joyeux.
Non, c'est pas jubilatoire, c'est au-delà du jubilatoire. Le jubilatoire, c'est petit. Quoi. Moi, j'en suis à ma cinquième année et j'ai 65 ans. Donc, j'ai pris ma retraite à 60 ans et je ne m'en lasse pas et je regrette rien. Voilà.
Et vous aviez la durée de cotisation suffisante ?
Largement, oui. Largement.
Pourquoi largement ?
Parce que juste avant ma retraite, on m'a signifié que c'était sympa d'avoir cotisé pendant 171 trimestres, mais que je ne leur devais que 167 trimestres. Donc, que j'allais pas malheureusement avoir de bonus. Mais il me remerciait d'avoir cotisé toutes ces années.
Donc vous avez commencé à travailler tout juste majeur.
Moi j'avais 17 ans. Voilà. J'ai commencé à parcourir le monde à 17 ans. Est-ce que j'ai l'air traumatisé, malade ? Ça va ? Non ? J'ai pas l'air trop malade ? Non, non, ça va. Je me plains pas. Ça pourrait être pire.
Mais c'était bienvenu la retraite.
Ah ouais, c'est bien. Puis c'est bien. Qu'est-ce qu'on est bien ? Puis ici, qu'est-ce qu'on est bien ?
Et pour ceux qui auront la retraite à 65 ou 67 ans?
Je ne sais que dire. Que voulez-vous?
Nous sommes en 2023. Ils sont les fameux baby-boomers. Il et elle profitent encore d'une bonne retraite. Et ceux qui ont travaillé tôt peuvent prétendre à partir à 60 ans. Certes, ils bénéficient de la montée en puissance d'un système de retraite encore prospère, tandis que, on le dit bien assez souvent, leurs enfants vont devoir payer plus et travailler plus longtemps pour des retraites plus basses. Mais attention aux généralités et aux moyennes, qui passent à côté d'une fracture qui ne cesse de s'élargir entre hommes et femmes, travailleurs et chômeurs, et cela commence dès les années 70. Giscard d'Estaing est président et sous ses fenêtres, la revendication de la retraite à 60 ans.
Aujourd'hui, en effet, pour le point fort de l'action CGT-CFDT en faveur de l'abaissement de l'âge de la retraite, meetings, manifestations et arrêts de travail ont eu lieu dans tous les secteurs. Et cela, tant en province qu'à Paris.
27 mai 1971.
Eh bien, la manifestation est terminée depuis trois quarts d'heure maintenant. Écoutez.
60 ans, la retraite à 60 ans, la retraite Giscard à lâcher, Giscard.
Voilà ce que M. Giscard d'Estaing a pu entendre pendant deux heures sous ses fenêtres, des dizaines de milliers sans doute de manifestants, ici on dit de 50 à 60 000, réclamaient la retraite à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, et en même temps une augmentation de toutes les retraites. Sous la houlette de la CGT et de la CFDT, de très nombreux corps de métiers, de professions, des entreprises et d'union syndicale de la région parisienne ont défilé de la place de l'Opéra au Palais Royal, c'est-à-dire sur une distance de moins d'un kilomètre. Les infirmières, que l'on ne croyait décidément pas si nombreuses, et une très importante délégation de la métallurgie, avec bien entendu des représentants de Renault d'ailleurs très applaudis. En tête du cortège marchaient côte à côte Georges Segui et Henri Krasucki, les patrons de la CGT, Laurent Lucas et Edmond Maire, patrons de la CFDT, entourés bien entendu de leurs bureaux confédéraux. Et j'ai demandé à Georges Segui s'il pensait, compte tenu des réalités économiques, qu'il était suivi par les travailleurs, si la retraite à 60 ans est souhaitée par la majorité des travailleurs. Écoutez-le.
Je n'attache qu'une importance mitigée au sondage de l'opinion publique. Mais je viens juste avant la manifestation d'avoir connaissance de l'un d'eux qui démontre que 65% des travailleurs salariés sont prêts à faire grève pour l'avancement de l'âge de départ en retraite.
C'est le problème de la retraite à 60 ans. On oublie que le Code de sécurité sociale, vous voyez, je me promène avec mon petit livre rouge maintenant sous le bras, il y a un article L331 du Code de sécurité sociale qui dit que la retraite dans le régime général, est à 60 ans.
Boulin dit, ah mais oui, mais la retraite à 60 ans, vous la demandez, les organisations syndicales la demandent, elle existe déjà. Bon, il est de mauvaise foi, bien entendu.
Nicolas Castel.
Mais c'est pas complètement faux, puisqu'on voit bien que petit à petit, elle se met en place, hein, un taux du salaire plafonné qui augmente, pour ce qui est des retraites. Ce sera donc 25% à 60 ans, si vous partez à 60 ans. Mais en fait, les gens, ils vont pas choisir ça, ils vont plutôt, ceux qui peuvent, rester au chômage, parce que au chômage, à partir de 60 ans, si vous avez été licencié, là, vous pouvez conserver 70% de votre salaire brut, ce qui est quand même pas mal. Et donc, vous attendez vos 65 ans pour demander vos droits à retraite.
Et que contrairement à ce que dit M. Cohen, depuis deux ans, le plan a débattu largement de cette affaire, avec des commissions et des groupes de travail qui ont été publiés et auxquels ont participé les organisations syndicales, sauf au dernier moment où elles les ont quittées. Elles ont quitté la CGT, la CFDT, ont quitté ces commissions du plan. C'est sans doute pour ça qu'elles ne sont pas au courant. Ensuite, ce plan a été soumis au Conseil économique et social. Ensuite, il a été voté par le Parlement.
Est-ce que dans une démocratie, toutes les institutions doivent relever du Parlement. Il me semble que ce qui était intéressant dans le projet initial de sécurité sociale, c'était ça, c'était que on a un État-nation dans lequel vous avez différents espaces du politique. Et ces différents espaces du politique, eh bien, vous avez évidemment une démocratie parlementaire d'un côté, et puis vous avez un autre espace qui est une démocratie en marche, hein, une démocratie des travailleurs, la démocratie sociale. Et là, je pense qu'il y a une fermeture qui s'opère, qui est très très forte, et qui est un vrai problème, puisqu'on a le sentiment qu'il n'y a plus d'alternative, plus aucune autre que la baisse des droits sociaux.
Le débat Boulin anticipe le plan Juppé de 95.
Michel Pigenet.
Alors, en 1995, il y a eu un grand mouvement social qui a obligé le gouvernement Juppé à abandonner une partie de ses projets, notamment en matière de régression des retraites, des services publics et des fonctionnaires. Mais il y a un pan du plan Juppé qui est passé, qui est que le budget de la sécurité sociale est désormais examiné chaque année par le Parlement, qui fixe le montant des cotisations, qui fixe le montant des dépenses, et ainsi de suite. C'est-à-dire que une bonne partie des choses... Alors, il y avait la tutelle, il y a toujours eu la tutelle du gouvernement sur les caisses de sécurité sociale. Mais les caisses de sécurité sociale disposaient quand même d'une marge de manœuvre. En 1974, l'arrivée de Giscard d'Estaing. On est toujours dans la Ve République, mais ça n'est plus la Ve République gaullienne. Les gaullistes viennent de perdre l'Élysée, et donc l'espèce de continuité relative qu'il pouvait y avoir par le gaullisme entre 1945 et 1973 n'existe plus.
Octobre 1974, lettre ouverte, François Giroud.
Pendant la campagne électorale, on ne s'est jamais penché sur notre problème à nous, évidemment, les femmes toutes seules, on n'intéresse pas. Et pourtant, nous sommes déjà une certaine quantité, bien entendu. Et alors, nous avons des problèmes très délicats parce que, naturellement, à la mort de nos maris, nous perdons la moitié, même plus de la moitié de la pension, et alors qu'en réalité, nous avons des frais autant presque que quand on est deux. À part la question de la table un petit peu l'habillement, mais quand on arrive à un certain âge, on n'a plus tellement besoin d'habillement.
François Giroud a été nommé secrétaire d'État à la condition féminine. Oui. Ça vous, le problème que vous posez là, qui est le problème donc des femmes seules et des veuves, vous paraît dépendre directement de sa compétence.
Il me semble que étant femme elle-même, n'est-ce pas, elle va mieux comprendre.
Vous savez probablement qu'il y a un problème de cumul pour les pensions. À votre âge, ça ne vous intéresse pas. Pour les gens qui sont à la retraite, c'est très important. Bon, le cumul, la notion de cumul qui était interdite est maintenant autorisée, en tout cas pour la moitié de chacune des pensions. Cela représente 400 millions de francs. Deuxième chose, je vous en ai parlé, c'est ce qu'on appelle la couverture sociale. C'est-à-dire que quand une femme perd son mari et qu'elle ne travaille pas, elle n'a aucune assurance maladie, ni pour elle, ni pour ses enfants. Bon. Cette couverture sociale est acquise pour un an pour les veuves et pour les divorcés. La loi, également, quand je dis qu'elle est acquise, encore une fois, le Parlement doit en décider. Je sais bien que les gens ont du mal à comprendre ça, mais quand le Conseil des ministres décide quelque chose, il faut en général que le Parlement le ratifie. Pas tout, mais enfin un certain nombre de choses. Je ne crois pas qu'on doive s'en plaindre. Et la troisième chose, le troisième point, c'est ce que j'ai appelé l'indemnité d'attente, je l'ai dit tout à l'heure. L'indemnité d'attente, le principe en est acquis, elle sera accordée aux femmes de moins de 55 ans. Quand on a moins de 55 ans et qu'on est veuve, on ne touche pas de pension, on ne touche rien. Quand on est divorcé non plus, c'est une situation qui est absolument dramatique. Il y aura donc une indemnité d'attente pour les femmes qui cherchent du travail, qui sont inscrites à l'agence de l'emploi, et ça leur permettra de passer quelques mois et de se retourner. Ce sont trois mesures importantes.
Je suis en vadrouille, mais vous êtes là. C'était écrit là.
Non, mais elle reste tout le temps.
La petite ardoise.
Bonjour. Faut que je raconte ma vie, alors.
Ah, on voit l'arbagle ici.
Comment?
L'arbagle, le café.
Oui.
Il est à deux pattes chez vous.
Ah oh ben, on était ici. Mes parents tenaient un commerce ici avant. Et donc l'école était là.
Janine.
Vous savez, dans le temps, les jeunes n'allaient pas à l'école, ils allaient au champ. Et donc, il y avait peut-être 10 ou personnes, et c'était là en face. Là.
Et le donc, café, vous avez commencé à travailler à quel âge au café?
15 ans. Et mon père, c'est pour ça qu'on a un grand garage là, parce qu'il faisait le goémon aussi, les grandes algues là. Alors, l'épicerie était là, sur la terre battue où est ma cuisine. Mes parents, ils habitaient ici, et on dansait dans les chambres. Ouais.
Dans les champs.
Dans les champs. Ouais, ouais. On dansait. Je m'appelle Janine. Donc, depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé à Arbac.
Ouais. Travailler dans ce café commerce.
Ouais. Bon, le dimanche, il y avait la messe basse. La première messe. Donc, on avait plein de gens qui venaient boire le café et puis qui se retrouvaient. Après, à 11h, on avait la grand-messe aussi. Ensuite, on avait le bureau de tabac. Hein. L'après-midi, c'était, quand il pleuvait, c'était des cartes. Il y avait la coinchée, la belote. Et autrement, on avait trois allées-boules derrière le Harvard.
Ça faisait une grande amplitude horaire. Hein.
Oui.
Et vous, au café, vous avez été déclaré, non? En famille, on déclarait.
Ah ben non, on ne faisait pas. Hein. Mais dans le temps, c'était ça. Parce que quelquefois, j'en parlais à des enfants de cultivateurs. Et ils disent, moi, c'est pareil, hein, avec mon père et ma mère, là, on ne nous a jamais déclaré non plus. Hein. On ne pensait pas à ça. Hein. Et là, j'ai eu du travail, hein, après, là. Ouh, on a eu du travail. Hein. Ah ouais. Au Harvard, là. Ah oui, c'était dur. Hein. C'était dur parce que j'avais que 15 ans. Hein. Et là, les sacs de pommes de terre, ils étaient 50 kilos, hein. Et quand, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire du Zlougui, là. Alors, nous, on avait un dépôt de pommes de terre, et il arrivait la nuit, mais on n'avait plus d'ouvriers. Hein. Alors, moi, j'approchais tout ça avec un diable et avec le chauffeur, et c'était des grands sacs de 50 kilos. C'est pour ça que je suis toute bousillée, là. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais. On faisait du charbon. Alors, le samedi, c'était la caisse de grappiru, la boîte de savon, là, vous voyez, par paquet de 10, le paquet de sucre et tout ça, là. Alors, ça, c'était le samedi. J'ai jamais su, pendant au moins 15 ans, qu'est-ce que c'était une jupe. J'étais toujours en salopette. Tout le temps. Combien de gens m'ont dit ça? On t'a toujours connu quand salopette, quand j'étais jeune, ouais. Ouais, ouais.
Quand est-ce que vous vous êtes dit, tiens, moi aussi, j'ai le droit à une retraite, puisque vous avez toujours travaillé?
Eh ben, très tard, c'est ma petite fille, la fille d'Anne-Marie Fanny, là, qui a vu ça. Parce que moi, je ne peux pas rester à la maison sans rien faire. Quand vous avez travaillé toute votre vie, ça vous démange. Donc, je suis allée chez Ruzic, et j'étais là à la chaîne, à coudre les sacs. Et donc, à 86 ans, il y a à peine deux ans, on m'a appelé par la MSA que j'avais le droit à une retraite de 50, je ne sais pas combien. Ouais.
MSA, retraite agricole, MSA.
Oui, c'est la caisse agricole, ouais. Mais à 86 ans, ils ne pouvaient pas me le dire avant. Donc moi, on m'a dit que je n'avais pas le droit. Bon, bah, J'ai pas cherché. Et c'est ma petite fille qui dit, c'est pas possible qu'elle dit, puisque tu n'arrêtes pas, que tu n'aies pas le droit à plus, quand même.
Voilà. Mais la retraite, c'est un droit.
Et j'étais déclarée, elle aimait ça. J'étais déclarée, pourquoi qu'elle ne m'a pas dit. Alors, moi, j'avais demandé à Chérusique, là, on me dit non, parce que tu travailles que pendant 2 mois. Tu n'auras pas le droit à grand-chose.
Les saisons.
Ouais, voilà. Alors.
Ouais. Vous avez une pension de reversion de votre mari?
Oui. N'en parlez pas.
Parce que votre mari était marin de commerce.
Ouais, parce qu'il a fait 27 ans de pétrole. 27. Quand il y a eu le lancement de la bombe Uruwa, là, il allait charger à Brest, là. Hein. Alors, son frère était faillot, comme on dit. Il était faillot, on appelait ça des faillots. Ouais. Lui, il a eu une prime. Là, mon mari a été fou. Voilà. Ils ont eu une prime de je ne sais pas combien. Il a envoyé 3 fois à Uruwa, là. Hein. Ouais, 3 fois. 3 voyages. Et rien. Et donc, eux, rien, le pétrolier. Après, c'était eux qui étaient plus en danger, puisqu'ils avaient le produit. Si ça explosait, tout explosait. Hein. Ouais. Alors, je vous dis pas, quand les deux frères se rencontraient chez la belle-mère, c'était... Il fallait pas parler de ça. Hein. Ouais. Et après, quand on a fait notre relevé, eh ben, les 2 ans, c'était gratuit pour les Nîmes, là. Hein. C'était gratuit. C'était Elf. Ils sont pas en faillite, là. Oh non.
Alors, rappelez-moi, quand vous avez juste compris que vous aviez droit à la retraite, vous avez compris que vous pouviez toucher combien?
Combien? Ben, attendez, moi, je vais vous chercher la feuille. Hein, moi, j'ai rien à cacher. Hein. La retraite. donc, je touche 724 euros. 22. La retraite de le maritime, hein. La retraite de mon mari pour avoir fait 25 ans de pétrole. Et il était, je ne sais pas si vous comprenez, il était en 10e catégorie. Vous vous rendez compte quand un matelot, qui n'est qu'en 5e ou en 6e, comment que la veuve doit toucher peu quand même. Alors,
ouais. Bon, ben, c'est quand même mieux avec que sans.
Ah ben, c'est déjà bien. Ouais. Oh, je marque une croix, là. Ouais. Et Marine dit, t'as un peu trop de sous, là. Ouais, mais j'ai le fioul à faire. Moi, j'aime pas être juste, je dis. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Banque postale. Et...
Dans la matinée du 10 juin 1968, après 3 semaines de grève et occupation d'usine, les ouvriers de Vonder, à Saint-Ouen, réunis par leur patron, ont voté la reprise du travail par 560 voix contre 260.
Le film Reprise, 1997.
Le jour même, à 13h30.
Hein? Bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai.
On n'a rien avec son à la voie de vacances,
mais... Ah, on n'a rien obtenu. Mais oui, tiens, il a reculé.
La jeune ouvrière a pour interlocuteur 2 membres du bureau local CGT de Saint-Ouen.
Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans.
Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Là, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, hein.
Je mettrai plus les pieds dans cette tôle. Rentrez-y, vous verrez. Vous allez voir quel bordel que c'est.
Vous le voyez, vous parlez avec le patron.
Il y a 3 semaines, c'est un jour.
On est dégueulasse jusque-là. On est toutes noires. Faut le voir. Mais oui.
Premièrement, pour le vote, ils ont fait des saloperies.
Alors ça, c'est l'usine Vonder, la grève. On voit donc les grèves de l'usine Vonder et on voit une jeune femme brune qui a une 30aine d'années. Très, très militantes, qui croient vraiment qu'ils vont obtenir des choses, etc. Et à la fin, elle est en larmes, et c'est terrible. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, d'ailleurs. Elle est en larmes parce que les gens du syndicat lui expliquent, ben si, on a quand même obtenu des choses, il va falloir rentrer au travail. Et elle, elle pleure de rage parce qu'elle dit, mais attends, mais on ne s'est pas battu tellement longtemps pour avoir si peu. Et elle rentre en pleurant. Et ça, c'est vraiment un film documentaire magnifique.
Pour le vote, ils ont fait des saloperies.
On le sait, on le dénoncera. On le dénoncera, mais on ne peut pas tout.
Non, ben, il ne faut pas tout avoir d'un seul coup. On ne peut pas l'avoir tout d'un seul coup. C'est une étape.
Vous ne pouvez pas bloquer. C'est
maintenant. C'est saboté, le vote, oui. Ils ont fait ça à la saloperie, oui.
Le vote qui a été fait.
Ils ont fait des saloperies.
Il a été dépouillé sans un seul représentant.
Oui, d'accord. Il y a eu des pressions vis-à-vis du personnel nord-africain.
Le patron a fait dépouiller le vote.
Le gars, il a fait des saloperies. Ils nous ont eu. Moi, je rentre pas.
Exactement.
Il y aura des représailles. Imagine-toi sa place. Elle vient de gueuler maintenant.
Alors, il y a le fameux film, un des films emblématiques de 68, c'est Reprise des étudiants de l'UDEC, qui dit que cette femme ne veut plus refoutre ses pieds dans cette tôle dégueulasse.
Tanguy Perron.
Avec son accent parisien qui nous a tant marqué. C'est un film d'une dizaine de minutes. Et Hervé Leroux a fait un film de 4 heures en 1995 à la recherche de cette femme. Et je ne veux pas divulguer la chute de ces films-là, mais il ne la retrouve pas, en fait.
Enfin, les conditions de travail étaient atroces. Hein.
Gillian Lefebvre.
On sortait noir, les mains pleines de produits toxiques. Enfin, c'était des conditions de travail du 18e siècle. Quoi, hein. C'était... Donc ça, ils ont tenu peut-être un peu de choses, mais pas grand-chose.
Hein. Les tapis dans l'affaire.
Qu'il a racheté pour un franc symbolique à l'époque, oui. Plus tard, oui. Oui, Tapie qui était présenté comme un espèce d'homme d'affaires miraculeux et oui, qui était une vraie crapule, mais enfin ça c'est autre chose. Hein.
N'empêche que ces 3 ou 4 heures d'enquête sont passionnantes parce qu'on voit toutes les évolutions de la classe ouvrière. Et il ne se singularise pas, il ne se polarise pas uniquement sur l'usine Vonder, filmé en 68 par les étudiants, mais il va travailler sur l'usine Vonder rachetée par Bernard Tapie. Et là, on peut voir une vieille ouvrière qui était scandalisée parce qu'elle a été trahie par Tapie, qui avait dit qu'elle allait prolonger cette usine alors qu'il l'a liquidée très rapidement. Elle, on se rappelle qu'elle a vu son moment de célébrité parce qu'elle avait cassé son parapluie sur la tête de Bernard Tapie. Elle a vécu de sa retraite. Mais souvent, quand ils sont licenciés, la retraite est plus dure. Et surtout si l'âge de la retraite est repoussé. Donc, il y a des périodes de précarité. Et pour les ouvriers, les ouvrières, eux en particulier, c'est plus dur. On a besoin de ces moments collectifs, de ces moments de représentation emblématique, mais on a besoin de manière plus fine de voir ce qu'ils sont devenus. Et des fois, la retraite n'est pas là.
Oui, monsieur, allô ?
Bien voilà, je ne travaille plus. J'ai été licencié. Je voudrais savoir ce que je dois faire pour continuer à percevoir la sécurité sociale.
Allô, la sécu ? France Inter Femmes, 1971.
L'assuré garde le droit aux prestations pendant le délai d'un mois après la cessation d'activité. Au bout de ce délai, théoriquement, il n'a plus droit à aucune prestation. Toutefois, il a la ressource de s'inscrire au chômage pour continuer à bénéficier du service des prestations. Et si cette inscription est faite, évidemment, dans le délai d'un mois. Passé le délai, même inscrit au chômage, il n'aura plus jamais droit à la sécurité sociale tant qu'il n'aura pas repris une activité salariée.
Et le chômage, ça peut durer combien de temps ?
Eh bien, ça peut durer très longtemps.
Indéfiniment ?
Pratiquement indéfiniment. Il n'y a pas de limitation parmi les inscriptions au chômage chez nous officiellement.
Il y avait Suzanne Zedette aussi qui était l'équivalent de l'héroïne de Reprise, si l'on peut dire. Elle est dans À bientôt, j'espère, et surtout dans Classe de lutte des groupes Medvedkine. Elle est montrée, magnifiée, filmée, s'épanouissant. On la voit prendre la parole pour la première fois en 68 et puis après devenir une vraie militante, une militante importante. Et ça amène à un divorce, puisque l'équilibre entre le militantisme et les charges familiales n'est pas toujours réglé de manière évidente et finira par faire des ménages dans les hôpitaux. Donc ce n'est plus l'héroïne qu'on connaissait en 68-69. Elle aura une carrière de militante, d'ouvrière, qui finira aussi avec une toute petite retraite.
Alors, au fond, un des moments qui va modifier structurellement le système, c'est à partir du moment où il n'y a plus de plein emploi.
Michel Magueras.
Un des points fondamentaux, c'est que les acteurs de 45 ne dissociaient pas le système de protection sociale du plein emploi. C'est-à-dire que c'est à la fois le garantie que le revenu augmente, hein, donc c'est des recettes qui se poursuivent, et que d'autre part, on va pouvoir, au fond, réduire aussi le nombre de risques. S'il y a plein emploi, il y a quand même amélioration du niveau de vie.
Quand on parle de retraite, hein, on parle de masse salariale. Hein. La retraite, c'est pas des problèmes démographiques. Hein. C'est pas, je sais pas quoi, choc démographique ou il y a pas assez d'actifs. Ou ça, bon, il y a un rapport démographique, on pourra en parler. Mais non, c'est pas ça. C'est une question de masse salariale.
Nicolas Castel.
Et ça, d'ailleurs, les acteurs politiques contemporains l'ont bien compris. Hein. Ils cherchent pas à réformer les retraites. Ils cherchent à réformer les salaires. Ce qui les intéresse, c'est comment on joue sur la masse salariale.
L'un des points importants, pourquoi ils voulaient tant un système unifié et unique, c'est parce que ça donnait une masse critique de ressources suffisantes. La plupart des caisses antérieures de protection sociale avaient, au fond, eu des difficultés du fait de l'insuffisance des bénéficiaires, des cotisants. Et là, on était assuré, vous voyez, d'un volume. Et c'est ça aussi qui motivait la création de ce régime. Mais au prix d'un certain nombre de contraintes, incontestables, collectives. À partir du moment où la situation individuelle s'améliore grandement, on ressent d'autant plus le poids du collectif. Et pendant tout un temps, on le ressent comme étant positif, parce que étant la condition du progrès individuel, il arrive un moment où, au fond, les aspects pénalisants l'emportent. Et je pense que 68 a été un de ces moments. Hein. Jouissons sans entrave, etc. C'était quand même bien... on évacue tous les systèmes de contraintes collectives qui pèsent sur l'individu. Et puis à la fin des années 70, alors là, les problèmes d'emploi, les problèmes de fond, de désindustrialisation vont aggraver la situation.
Alors, on a commencé quand même à se poser des questions quand même dans les sous Giscard, moi je me souviens, quand il y a eu les grandes manifestations de sidérurgistes, parce qu'on voyait quand même qu'il y avait des grands pans de l'industrie là qui disparaissaient. Et ça, c'était en 79, je m'en souviens très bien, parce que nous habitions République, et il y avait ces grandes manifs des sidérurgistes de Lorraine et d'Usinor Dunkerque. C'était Arcelor, il y avait des grandes manifs et les emplois étaient menacés, on savait là, parce que moi je travaillais sur la planification et sous le terme de restructuration de la sidérurgie, en fait on était en train de l'abandonner, alors que c'était quand même les biens d'équipement, la base de la politique industrielle, hein, ça c'est le 5e et 6e plan. Donc là, il y avait 60 000 emplois, dans le bassin lorrain. Un tiers était supprimé en 2 ans. Et vraiment, les sidérurgistes arrivaient. Alors c'était assez spectaculaire, avec des fumigènes rouges là sur le boulevard Voltaire. C'était magnifique. Et toute la population était solidaire, parce que les gens sentaient instinctivement que là, il se passait quelque chose de... Alors, tu vois, c'était plus le chômage que la retraite. Mais, de fait, les gens qui allaient être au chômage, et certains étaient jeunes, bien sûr, la retraite, au bout, parce qu'on savait très bien qu'il n'y avait pas d'autres emplois dans le bassin lorrain. Parce que 10-15 ans avant, c'était tout le charbonnage qui avait été supprimé. Donc, il ne restait que la sidérurgie. Et là, la sidérurgie partait. Donc on savait aussi qu'après, l'industrie automobile, enfin tout allait être délocalisé, quoi. La famille Vindel qui allait commencer à s'installer en Corée, etc. Hein. Oui, ça. Donc ça, c'est une période où on sentait quand même que les choses changeaient. Ça n'était plus la politique de reconstruction qu'avait créé De Gaulle, etc. Hein. Et puis la planification, c'était on abandonne la planification et on abandonne la politique industrielle. Hein. Et puis après le 7e plan, c'est une enveloppe vide et après ça a été terminé. Hein. Voilà.
Ce jour-là, 22 octobre 1982, qui est le jour au singulier de Marcel Donati, ce jour-là, la météo annonçait qu'il allait y avoir des brouillards denses dans la matinée, qui allaient se dissiper ensuite dans le courant de la journée, que des nuages allaient arriver progressivement par l'ouest dans l'après-midi. Et vous souvenez exactement de comment s'est passée cette journée, cette nuit ?
Oh oui, je me rappelle. Nous avons fait un feu de joie au milieu de la halle pour pouvoir cuire nos merguez. Et nous attendions donc avec une certaine amertume le laminage de la dernière barre, mais nous ne savions pas à quelle heure elle aurait lieu et à quelle barre. Il y a quelque chose d'hallucinant. C'est comme si, je ne sais pas, si on continuait à cuisiner dans un appartement en flammes, comme si, je ne sais pas, comme si rien n'allait arriver alors qu'on savait que c'était la mort. Moi, je suis rentré là-dedans à 16 ans. La barre, pour être bien faite, ne pouvait pas se passer de l'homme, et nous, on ne pouvait pas se passer de la barre, parce qu'autrement, on n'avait pas le lieu d'être. Le lieu d'être, voilà. Quand on franchit cette grille pour rentrer, tout d'un coup, on devient ce dompteur. On sait qu'on va dompter le métal. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Quel est le produit? Quel va être son profilé? Quelles vont être ses dimensions? Dans quelle qualité? Pour quelle destination? Tout ça nous brûlait la tête, nous occupait la tête, parce qu'on voulait savoir, Bon, c'était notre vie. En rentrant là-dedans, c'était notre vie. C'est un monstre, la minoire, c'est du bruit sans arrêt, c'est de la calamine, c'est... Puis ça bouffe, la nuit, on est bien dans son lit, hein, on est beaucoup mieux au lit qu'à l'usine. Les jours fériés dans l'usine, ça ne devrait jamais exister. Le travail du dimanche à l'usine, ça ne devrait jamais exister. Les réveillants à l'usine, ça ne devrait jamais exister. C'est absurde, tout ça. Mais on a vécu par l'absurdité. On a vécu dans l'absurdité. Je suis venu au monde dans l'absurdité.
Marcel Donati, vous vous souvenez quand la machine s'est arrêtée ?
Ah oh, oui, terrible.
Il y a eu un silence ?
Terrible, un silence bruyant. Un silence insupportable. Un silence qui fait éclater la tête. Un silence qui fait mal aux oreilles. Il n'y a pas plus terrible qu'une usine quand elle ne tourne plus. C'est fou. Mais c'est fou quand tous ces moteurs, ces compresseurs, tout ça tombe. Ça fait un... Puis c'est le silence. Quand le métal refroidit, quand les moteurs refroidissent, ce bruit de cercueil...
Quand j'ai commencé à bosser, moi, en 1974, je me souviens, on prenait un café un matin et on a lu un journal, ils annonçaient 500 000 chômeurs. Et avec stupéfaction, on s'est dit, mais c'est pas possible, on va arriver au million de chômeurs bientôt. Au début, c'était... on s'en indignait encore. Mais c'est insidieuse, tu vois, c'est un peu l'histoire de la grenouille que tu mets dans l'eau froide et tu fais chauffer l'eau, quoi. Hein. C'est...
Je suis déjà morte, tu vois. Je comprends pas, moi. J'ai du mal, hein.
Bon, allez, ça traîne devant, là.
Les jeunes retraités, là. On a le micro. Quel bien-être. Tu rends compte cette chance qu'on a?
Bien sûr, la retraite est un droit. Il faut en profiter. Et cette activité-là est géniale. Est vraiment... participe justement à s'épanouir dans la retraite, dans les activités.
Ah, Un demi-tour, s'il vous plaît. Un demi-tour, s'il vous plaît.
Ah, bah voilà.
Ah, oui. 26 mars 1982.
Les lendemains d'un conseil des ministres hyper social, parmi toutes les ordonnances entérinées par le gouvernement, il y en a une qui fait couler ce matin encore beaucoup d'encre et de salive, c'est celle qui concerne la retraite à 60 ans. Le CNPF regrette l'insuffisance de la concertation, il critique l'alourdissement des charges pour les retraites complémentaires. Les cadres CGC font à peu près la même analyse. La CFTC estime que le principe des 60 ans ne règle pas le problème des ressources. La CGT voit dans l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans une réforme importante, mais la centrale remarque, elle aussi, que la question des revenus reste un problème majeur qu'il faudra régler, faute de quoi, ajoute la CGT, cette mesure risque d'être inopérante dans le domaine de l'emploi. Car il ne faut pas l'oublier, cette ordonnance, indépendamment de la qualité de la vie du départ des 60 ans, est destinée aussi à lutter contre le chômage.
Pour l'instant, le montant de la retraite versée aux salariés âgés de 65 ans se divise en deux parties. La retraite sécurité sociale, égale à 3300 francs maximum. La retraite complémentaire, qui porte la pension à presque 70% de l'ancien salaire pour la grande majorité et à 50 ou 60% de cet ancien salaire pour les cadres. Le problème est donc maintenant pour les caisses de retraite complémentaires de trouver suffisamment d'argent pour financer les retraites à partir de 60 ans et non plus de 65 ans.
Alors d'abord, j'étais pas mûr pour la retraite, si je puis dire, l'année de mes 60 ans. À l'époque, la retraite, c'était à 60 ans.
Michel Lecam.
Donc j'ai fait une année supplémentaire. J'ai été donc enseignant au lycée Joseph Savinat à Tréguier pendant plus de 20 ans, lycée dans lequel j'avais fait mes études. J'ai beaucoup aimé mon travail, j'ai beaucoup aimé ce lycée, les élèves. Ceci dit, je n'avais pas de nostalgie. J'ai pas eu de tristesse. Je me souviens des... Enfin, j'ai pas eu de dernières heures de cours parce que il se trouvait que j'avais des élèves de terminale qui venaient pas. Et puis finalement, là, je pense que la dernière heure, elle a jamais eu lieu, quoi. Enfin, tout au moins, je ne savais pas que c'était la dernière. Sans nostalgie, au fond, hein. Sans nostalgie. Et même quand je passe devant le lycée, où je lève pas forcément la tête pour regarder ma salle. Et alors, je n'ai pas fait ce que font beaucoup de collègues. Ils jettent leurs cours quand ils sont à la retraite en se disant, au fond, ça ne servira plus à rien. Et alors, c'est un peu naïf, je pense, hein. C'est que je me suis dit, enfin, je pense pas être rappelé un jour dans une classe, mais je dois pouvoir être capable d'y aller. Donc, je garde tout ce que j'ai. Je vais passer beaucoup de temps à le faire, d'ailleurs. Et puis, après tout, ça pourrait se relire, hein, je pense, hein, pour moi, certains cours, hein. Donc, voilà, je fais pas bien la distinction entre le travail avant et puis la vie après, quoi.
Vous avez gagné en liberté?
Même si j'ai aimé mon métier, il y a quand même des parties de programme qui me plaisaient beaucoup moins. Et puis, il y a des contraintes aussi de temps. Il faut aller vite parce que pour préparer les élèves au bac, il faut parfois aller trop vite. On est obsédé par le temps qui passe. Hein. C'était quelque chose qui m'obsédait et j'en rêve encore. Quand je fais des cauchemars, ça m'arrive 3-4 fois par an. Eh bien, je pense que je n'ai pas fini le programme, par exemple, de terminale. J'ai pas fait les États-Unis en géographie. Et alors, c'est terrible. Hein, c'est terrible. Je n'ai pas d'autres cauchemars que ces cauchemars-là.
C'est un droit, c'est un salaire continué, c'est un salaire différé. Comment est-ce que vous définiriez la retraite ?
C'est un droit et c'est au fond une reconnaissance d'un travail qui a été fait pendant près de 40 ans. Là-dessus, je ne me suis jamais vraiment posé de questions. C'est quelque chose qui est naturel. Ça n'a pas hanté mes nuits, ça, de savoir hein, si j'allais avoir une retraite, etc. D'autant plus que, enfin, moi, je fais partie de la génération du baby-boom. J'ai connu donc les 30 Glorieuses. Et au fond, il n'y a pas de problème, quoi. En tout cas... Ma génération, on n'était pas très inquiet pour le problème des sur la question des retraites.
Je chante de lundi soir au matin. Je chante da da na na na
la na. Françoise.
La 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 la. Je suis beaucoup plus à l'aise à chanter qu'à parler.
Vous m'avez dit, Françoise, pas de retraite pour moi. Je ne suis pas une retraitée. C'est faux. Ce n'est pas comme ça que je conçois la vie.
C'est-à-dire que quand on est tombé dans la musique, je crois qu'on reste très souvent beaucoup dedans. On a du mal à en ressortir. Voilà. Alors, tant que je peux, et tant que des personnes veulent faire, si ça les intéresse, et ben voilà.
Le 29 janvier 1979, Les Nuits Magnétiques, Simone de Beauvoir.
Vous avez dit aussi que l'essentiel de votre œuvre était derrière vous, ça ne vous rend pas triste ?
Non, parce que quand même cette œuvre est faite, en un sens c'est reposant même de n'avoir plus être trop tiré en avant par l'exigence de choses à faire. En un sens, ça permet un peu de paresser, de lire beaucoup, de voir ses amis, de se promener, d'être moins asservi à la table de travail qu'on ne l'était plus tôt. Mais en même temps, bien naturellement, ça fait une dimension qui manque à une vie qui avait été axée d'abord beaucoup sur les projets, sur le travail, sur le lendemain, etc., etc.
Vous dites que la vieillesse, c'est le pas de l'infini vers le fini et que c'est terrible.
C'est ça. Pour moi, c'est ce qui me touche le plus. C'est que, alors qu'à 40 ans, même on n'a pas 40 ans, on n'a aucun âge, on a vraiment tout l'avenir devant soi. Évidemment, quand on a 70 ans, c'est très bien qu'on n'a pas tout l'avenir devant soi, qu'il reste quelques années, dont on peut essayer d'utiliser le mieux possible, mais il faut se lancer dans des grandes entreprises qui exigeraient toute une vie.
Nous sommes devant le 127 rue Saint-Maur. Aujourd'hui, la porte semble condamnée. Est-ce qu'on a retrouvé des archives de ce centre Tournesol et de des activistes ?
Pour l'instant, il s'agit essentiellement d'archives privées qui donc sont dans les différents domiciles des salariés de l'époque et bénévoles de ce centre social Tournesol.
Juliette Rennes.
Elles ont aussi les journaux, donc les exemplaires, des 6 numéros du journal Mathusalem, le journal qui n'a pas peur des vieux, donc c'est le sous-titre dans lequel dessinent Claire Bretéché, Annette Messager et d'autres, et qui paraît à partir de 1976. Il y a deux numéros de Mathusalem, le numéro 3 et le 5, qui sont consacrés l'un aux femmes, donc avec une couverture illustrée par Roland Topor, et l'un féminisme et vieillesse, illustré par Annette Messager, et qui aborde diverses thématiques qu'on retrouve aujourd'hui dans les mobilisations féministes autour de l'âge. Il y a des articles sur la revalorisation salariale des aides ménagères qui travaillent auprès des vieilles personnes. Il y a un article qui interroge, donc qui s'appelle « La retraite est-elle sexiste ?» qui interroge la façon dont les régimes de retraite reproduisent les inégalités de la vie active en se fondant uniquement sur la carrière professionnelle. Il y a des articles qui critique la façon dont notre société est organisée autour des valeurs de travail, efficacité, rendement, en reléguant la vulnérabilité du grand âge. Et donc il y a cette volonté de briser aussi le silence des féminismes de l'époque sur cette question des corps plus âgés. D'ailleurs, les rédactrices de Mathusalem interpellent le MLF en disant « Mais vous n'avez rien dit sur la vieillesse », alors même que la disqualification de la vieillesse est le pendant du culte de ce que vous dénoncez, le culte de la jeune femme objet, etc. L'une des rédactrices de ce journal, Chantal Latour, avait elle-même découvert aux États-Unis, donc à San Diego aux États-Unis, elle avait découvert les Grey Panthers, qui est une association anti-agiste, puisque le terme existait déjà aux États-Unis, et féministe des années 70, beaucoup plus structurée que ce qui pouvait exister à l'époque en France. Donc les Grey Panthers qui s'étaient inspirés dans leur dénomination des Black Panthers, avec pas seulement par analogie avec les luttes des Noirs, mais qui menaient aussi des luttes concernant la situation des Noirs plus âgés et les discriminations dont ils étaient l'objet dans le système de santé. Et donc Chantal Latour écrit un article sur ce mouvement des Great Panthers dans Mathusalem.
Les personnes âgées sont isolées du reste du pays et vivent à part. Selon l'une des fondatrices du mouvement des Panthères Grises, Maggie Kuhn. Les Panthères Grises ont été créées il y a 7 ans pour unir politiquement les citoyens âgés et faire pression en faveur de nouvelles aides et d'une réforme de la législation. Maggie Kuhn a été contrainte de prendre sa retraite après avoir fêté son 65e anniversaire. Elle a décidé de lancer le mouvement des Panthères Grises. Aujourd'hui, elle est à Miami dans le cadre d'une tournée nationale de conférences.
Et puis, à travers la notoriété de l'une de sa principale fondatrice, hein, Maggie Kuhn, qui est une femme retraitée, qui est très charismatique, à la fois elle a un air de bonne petite vieille dame sage et en même temps n'hésite pas à parler de sexualité dans les médias et de briser aussi l'image de la sagesse associée au grand âge.
Nous sommes 24 millions de personnes de plus de 65 ans et plus de 31 millions de plus de 60 ans. On estime que d'ici 2010 ou 2020, le pourcentage actuel de la population âgée aura doublé. Et si nous continuons à dispenser des services en utilisant des critères discriminants en fonction de l'âge et du mode de vie, les personnes âgées seront déconnectées du reste de l'Amérique. Et je pense que c'est du suicide.
Il y a un ton à cette époque-là qu'on peut retrouver peut-être dans les affichettes, des archives. Vous avez des documents avec vous, Juliette Rennes?
J'ai un document, entre autres, c'est le programme du contre-congrès de gérontologie qui a eu lieu le 5 juin 1975, illustré l'affiche par Rezer. C'est un vieillard sans dents et rigolard qui lance sa canne en l'air. Donc les 250 personnes qui sont réunies rue de Charonne pour le contre-congrès de Tournesol, et elle vise à faire entendre, je cite, « la parole des intéressés qui ne participent jamais au congrès, à savoir les retraités eux-mêmes et ceux qui travaillent à la base, que ce soit à domicile, dans les hospices, les hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, clubs, etc. et qui ont pourtant beaucoup à dire sur la politique de la vieillesse telle qu'ils la vivent ou la réalisent. » Avec cette logique qui se développe à l'époque dans la psychiatrie de secteur, de ne pas séparer les malades dits mentaux du reste de la société, avec les hôpitaux de jour, etc. Et donc beaucoup d'activités ouvertes sur le quartier sont développées avec ces personnes très âgées, parfois Alzheimer ou en tout cas qui ont des troubles mentaux, mais qui, dont l'idée est de préserver leurs liens sociaux avec des gens de différents âges et des gens de la vie de ces quartiers, donc d'abord le 13e et puis après le 11e pour le centre Tournesol. Patriarca, patriarca,
patrie, patriarca, patrie. Sur les docks, vivre vieille et libre, Thérèse Claire et les Baba Yaga.
Comme dit Angèle, il me semble, j'ai tort peut-être, je l'adore.
Les vieux ne sont pas plus réactes que les jeunes, finalement.
Non, ça c'est une idée reçue, parce qu'on confond l'effet d'âge et l'effet de cohorte. Or, l'effet d'âge, bon, c'est le nombre des années. Alors que la cohorte, quand on parle de cohorte, on parle d'un groupe d'individus qui, à un âge donné, ont vécu un événement marquant, qui leur a donné une certaine identité. Et donc, dire qu'en devenant vieux, on devient plus conservateur, c'est un cliché, je vous dis, où on confond la notion d'âge et la notion de cohorte. Donc, les 68ards, par exemple, resteront, à mon avis, progressistes sur le plan des mœurs jusque dans leur grand âge. C'est ce que l'on voit d'ailleurs avec les Baba Yaga. Hein.
Nos soleils, réveillons nos soleils.
Mais c'est pas une question d'homme, c'est une question de système. C'est comme si, moi, des bons patrons, moi j'ai connu des très bons patrons, il n'empêche qu'ils créent un système de classe, tu peux rien. Et que la discrimination des femmes par rapport aux hommes, c'est un système qui s'appelle le patriarcat. Bon, bah, t'appartiens à ce système-là. Alors, où tu milites ou tu milites pas.
Vous dites de temps en temps que le couple est le tombeau des femmes. Pourquoi ?
La discrimination dans le boulot, les 27% de salaire que nous avons en moins, les coûts en plus, tu veux pas faire l'amour, je te cogne. On fait du profit sur notre dos à travers le travail, la production, mais ils font aussi du profit sur notre ventre à travers le plaisir et la reproduction. Donc on est en plein marxisme, mais ça, dire que c'est d'une autre nature, Suzanne, je suis pas d'accord. L'un engendre l'autre. L'un engendre l'autre. Il y a des conditions démographiques et sociologiques qui sont plus tout à fait les mêmes. Nous sommes des femmes, le plaisir on peut encore, mais il faut dire que les hommes ne cavalent plus après nous. Il faut bien trouver d'autres solutions pour trouver l'apothéose. Et que deuxièmement, nous ne sommes plus dans la reproduction. Et troisièmement, nous sommes hors production. Et c'est ça qui me fait espérer un nouveau style de vie et peut-être une utopie politique. Donc si vous voulez, tout Les piliers qui sont si forts et qui enferment les femmes dans les parcs comme des moutonnes, ça s'écroule quand on est vieux, quand on est vieille, puisque c'est les vieilles. Donc, si vous voulez, les productions-reproductions s'écroulent. Donc, nous avons déjà tout le temps choisi. Nous sommes vraiment dans les utopies du temps choisi. Nous avons tout le temps choisi. Nous avons un petit revenu qui n'est pas toujours très... Mais enfin, on vit gentiment. Ça nous permet de vivre ou de survivre. Donc, nous pourrions trouver le futur, planter les racines du futur pour faire advenir une nouvelle société. Donc, on va essayer de démontrer que nous pouvons vivre autrement, que nous pouvons bien vivre et que le fondement du bien vivre ne sera plus l'argent et la consommation, mais le fondement du bien vivre sera, revenons à l'éternel retour de l'amour.
Merci à Nicolas Castel, Michel Margaras, Michel Pigeonnet, Tanguy Perrou, Juliette Rennes. Michel Lecam, Janine Delarvague, Juliane Lefebvre. Lecture, Élodie Vincent. Prise de son, Christophe Michou. Mixage, Valentin Azan. Documentation, Annie Signoret, Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Ciel, ma retraite, une série documentaire de Nejma Bouakra, réalisée par Franck Lilin. À suivre, à quoi bon travailler ?